Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne vais pas simplement reprendre la parabole et expliquer en quoi la parabole nous montre comment nous faire le prochain les uns des autres. Je ne vais pas faire que ça, je vais le faire un peu. Mais je ne vais pas non plus uniquement regarder comment l'Eucharistie est, c'est ça que je voudrais démontrer quand même, le sacrement privilégié qui nous est donné pour vivre cet appel à nous faire le prochain les uns des autres. Je voudrais faire ensemble les deux, voir comment le sacrement de l'Eucharistie éclaire cette parabole du bon samaritain et comment la parabole du bon samaritain éclaire le sacrement de l'Eucharistie pour que nous puissions comprendre quel est le mystère qui se cache derrière cette invitation que nous fait le Christ de nous rendre le prochain les uns des autres, qui est une invitation qui n'est pas facultative. Je crois qu'elle est essentielle. Et quand je dis essentielle, ça veut dire constitutive. Ça veut dire on ne peut pas être chrétien sans satisfaire, sans honorer cette invitation du Christ. Vous avez vu, donc ça c'est le premier point de mon introduction, donc je le redis, il y a dans le mystère de la rencontre, donc dans cette invitation à nous faire le prochain les uns des autres, il y a l'essentiel de la vie chrétienne, de ce qu'est notre appel de chrétien, de la vocation chrétienne. Deuxièmement, je voudrais un petit peu mettre en lien ce que nous allons réfléchir aujourd'hui avec ce que vous avez vu avec Monseigneur de Moulin-Beaufort la fois passée. Vous avez vu que c'est l'Église qui célèbre l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église. Monseigneur de Moulin vous a expliqué les différents sens de faire dans cette expression. Je voudrais simplement vous rappeler, pour ceux qui le savent, ou vous dire, pour ceux qui ne le savent pas, qu'au fond, quand on contemple le mystère de l'Église, on contemple un mystère qui met en relation le bas et le haut, et puis la droite et la gauche. Pour le dire encore autrement, l'Église met en relation l'homme avec Dieu, et elle met en relation les hommes entre eux. C'est comme ça que la constitution dogmatique Lumen Gentium, donc la constitution de Vatican II sur l'Église, donne une première définition de l'Église. L'Église est en quelque sorte le sacrement de l'union des hommes entre eux et de l'union des hommes avec Dieu. Le sacrement de l'unité du genre humain et de la communion avec Dieu. Et donc si l'Eucharistie fait l'Église et est faite par l'Église, il y a dans l'Eucharistie cette même logique horizontale et verticale. Et vous voyez, ce croisement horizontal et vertical, nous en retrouvons la même logique dans la parabole que je voudrais méditer encore avec vous ce matin, puisque comme vous l'avez tous lu et vu, j'ai regardé un petit peu les remontées de travail de groupe. Vous avez tous vu qu'il y avait dans cette rencontre du bon samaritain et de l'homme blessé quelque chose qui regardait non seulement la rencontre de l'homme avec l'homme, mais aussi la rencontre de Dieu et de l'homme. Donc, deuxième point de mon introduction, c'est de dire, bien, nous sommes, quand nous méditons, quand nous réfléchissons au mystère de la rencontre de l'homme avec l'homme, nous sommes nécessairement conduits, et on le voit par le biais de l'Église, on le voit par le biais de l'Eucharistie, on le voit dans cette parabole, c'est nécessairement conduit à la manière dont la rencontre de l'homme et Dieu marque et impère la rencontre de l'homme avec l'homme. C'est vrai, c'est clair. Alors je vais en deux points essayer de dire certaines choses qui me semblent importantes. Bien sûr, on ne peut pas tout dire. Hein. J'ai vu que Monseigneur de Moulin, qui parle beaucoup plus vite que moi, avait commencé en disant qu'il ne prétendait pas tout dire. Donc je me réfugie sous son autorité. Je fais comme lui et je ne dirai pas tout. Mais je voudrais au moins dire deux choses. Premièrement, ce sera mon premier point, je l'intitule communion de Dieu, communion à Dieu et communion des hommes. C'est parce que Dieu est en lui-même une communion. Je vais expliquer ce que je veux dire par là. Que Dieu vient à la rencontre de l'homme, que Dieu communie avec les hommes, que Dieu rencontre les hommes, que Dieu se fait le prochain des hommes. Et c'est cette rencontre de Dieu et de l'homme qui fait que l'homme est appelé à se faire le prochain de l'autre. Donc communion de Dieu, communion à Dieu et communion des hommes. Ça, ce sera mon premier point. Puis mon deuxième point, ce sera la question, je vais poser ma loupe sur la question du péché. Vous avez remarqué donc que cette parabole, pour dire qui est mon prochain, c'est la question posée par l'interlocuteur de Jésus, eh bien, elle va intégrer une thématique qui est la thématique du péché. Comme si le péché n'était pas que ce qui nous détournait de nous faire le prochain les uns des autres, ça vous en êtes tous convaincus, c'est que mon égoïsme, mon péché me renferme sur moi-même et me détourne de vouloir d'être le prochain de l'autre. Mais peut-être que la parabole dit non seulement cela, mais peut-être qu'elle dit plus. Et ce que je voudrais montrer, c'est que peut-être que la prise de conscience de mon péché, et pour être encore plus précis, peut-être que la prise de conscience chrétienne, c'est-à-dire devant Dieu, de mon péché, la reconnaissance que je suis pécheur, peut-être qu'elle devient l'opportunité, le point d'appui, le pivot qui fait d'abord que je suis rencontré par Dieu et qui fait que je vais à la rencontre de l'autre. Je dis encore une dernière fois autrement, le péché devient alors le lieu de rencontre avec Dieu et avec les hommes. Donc c'est ces deux points que je voudrais, si vous le voulez bien, reprendre avec vous. Premier point donc, communion de Dieu, communion à Dieu et communion des hommes. Alors, vous l'avez tous remarqué, et le texte d'Origène nous aide à bien le comprendre, quand Luc écrit cette parabole, c'est dommage que, quand j'ai donné le texte, j'ai voulu donner un texte très court, et donc j'ai donné qu'à partir du verset 30, mais j'aurais dû commencer un peu plus haut, parce que la parabole que raconte Jésus, elle est pour répondre à une question qui lui est posée, c'est quel est le plus grand des commandements ? Et qu'est-ce que dit Jésus ? Ben, le plus grand des commandements, c'est « Tu aimeras Dieu et ton prochain comme toi-même. » Tu aimeras Dieu et ton prochain comme toi-même. Et c'est pour expliquer cette invitation à la relation à Dieu, à la relation au prochain et à la relation à soi-même, qu'il va raconter cette parabole. Donc, je ferme une parenthèse pour reprendre ce que je disais au début. Donc, le texte d'Origène nous aide à comprendre comment, quand Saint Luc écrit cette parabole pour expliciter l'amour de Dieu et du prochain, de manière assez géniale et voulue, il y a un premier mystère. C'est-à-dire que on ne sait pas si le Christ c'est le bon samaritain ou si le Christ c'est l'homme qui est blessé de coups. Alors, c'est bien sûr le Christ, c'est bien sûr le bon samaritain. En ce sens, Jésus, puisqu'il est Dieu et qu'il vient à la rencontre de l'homme, il est ce Dieu qui vient guérir l'homme de son péché. Mais c'est aussi l'homme qui est blessé et qui est sur le bord du chemin, parce que Jésus est aussi celui qui a pris sur lui notre péché, comme le dit l'Écriture. Et c'est celui qui veut, pour nous sauver, être défiguré par le péché des hommes. Vous connaissez tous le beau chant du serviteur souffrant le quatrième chant du serviteur souffrant dans Isaïe chapitre 52-53, je ne sais plus, c'est l'un ou l'autre. On dit de ce serviteur qu'il était tellement défiguré qu'il n'avait même plus figure humaine. Donc le Christ, il est non seulement le Samaritain qui va à la rencontre de celui qui est blessé, mais il est aussi cet homme qui est blessé. Et vous connaissez aussi le le chapitre 25 de Matthieu, dans lequel le Christ dit ben, « Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc, il y a une ambivalence qui est voulue par saint Luc et qui est susceptible de nous éclairer sur ce que j'ai appelé, moi, le mystère de la rencontre, de la mystère de la rencontre du prochain. Alors, pour le dire encore autrement, je vais utiliser une expression que j'ai lue dans un des comptes rendus. Au fond, Jésus, il est le batteur et il est le battu, quoi. Il est les deux à la fois. En Jésus-Christ, Dieu se fait le prochain de l'homme. Jésus-Christ, il est le bon samaritain. Et pourquoi est-ce que Dieu peut, en Jésus-Christ, se faire le bon samaritain de l'homme? Parce que Dieu en lui-même est déjà relation. Et nous pouvons encore mieux comprendre ce qui est en jeu et en œuvre dans cette invitation à nous mettre en relation les uns avec les autres. Parce que se rendre le prochain de l'autre, c'est ça. C'est accepter d'être en relation avec lui. Eh bien, nous pouvons bien comprendre ce qui est en jeu dans cela quand nous le comprenons à la lumière de ce que nous dit cette parabole, c'est que, de fait, le premier à se mettre en relation avec nous, c'est Dieu. Et moi, j'explicite que Dieu se met en relation avec l'homme parce que ça fait partie de l'être même de Dieu d'être relation. Et vous voyez à quoi je fais allusion. Parce que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, eh bien, se définit comme relation d'amour. Ce qui fait que Dieu est Dieu et ce Dieu d'amour, c'est que le Père aime le Fils, que le Fils aime le Père et que cette relation d'amour réciproque, elle est tellement forte, c'est une personne, c'est l'Esprit-Saint. Donc ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, que dans cette invitation qui nous est faite de nous rendre le prochain les uns des autres, nous découvrons qu'en fait, nous sommes appelés à vivre quelque chose qui caractérise non pas d'abord l'homme, mais d'abord Dieu. Et donc le mystère de la rencontre à laquelle nous sommes introduits par cette parabole, c'est un mystère qui n'est pas à la mesure de l'homme, mais qui est à la mesure de Dieu. Pour le dire simplement, quand nous sommes invités à nous rendre le prochain les uns des autres, nous sommes invités à faire comme Dieu, à être comme Dieu. Et je crois qu'il y a là, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, il y a dans cette parabole et dans cette invitation à nous faire le prochain les uns des autres, quelque chose qui n'est pas accidentel, qui est essentiel à la vie chrétienne. Car qu'est-ce qu'être chrétien? C'est faire comme Dieu fait, c'est ressembler à Dieu. Deuxième, enfin je voudrais avancer un peu plus en avant dans cette idée que j'avançais, que le Christ est le bon samaritain et à travers ce bon samaritain nous contemplons Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. Dieu vient à la rencontre de l'homme en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que en Jésus-Christ il y a rencontre de l'homme et de Dieu? Mais parce que dès l'origine, quand Dieu crée l'homme, il le crée à son image. Et l'homme créé à l'image de Dieu est celui qui porte en lui l'image de Dieu. Et quelle est-elle cette image de Dieu? Sinon le Fils, le Christ. Vous savez ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Colossiens? Il est l'image visible du Dieu invisible. Donc en Jésus-Christ, j'ai l'image de Dieu et c'est cette image que je porte comme homme et qui me configure à Dieu. Ce que je veux dire, c'est que si ce qui définit l'homme, c'est d'être créé à l'image de Dieu, alors ce qui définit l'homme, c'est qu'il porte en lui l'image de Jésus-Christ. Et que donc, Jésus-Christ est vraiment celui qui rend possible, qui est la rencontre de l'homme et de Dieu. Si je dis tout ça, c'est pour expliquer que si, dans la parabole que nous avons lue, le bon samaritain se fait le prochain de cet homme blessé, C'est en vertu de quelque chose qui relève de Dieu. Se faire le prochain de l'homme n'est pas à la mesure de l'homme, mais d'abord à la mesure de Dieu. Et vous allez comprendre pourquoi, et vous comprenez donc pourquoi, ben, j'ai besoin de l'Eucharistie pour le vivre. Car qu'est-ce que l'Eucharistie, sinon ce qui me fait vivre de la vie de Dieu, ce qui me donne la force de Dieu, ce qui me nourrit de Dieu. Sinon, ce qui fait que, moi qui ne suis qu'un pauvre petit homme, eh bien je peux prétendre dire que je suis en communion avec Dieu. Déjà par le baptême, l'homme est uni à Dieu. Vous savez que par le baptême, mon être et l'être de Dieu ne sont qu'une seule chair. C'est saint Paul qui le dit dans l'Épître aux Romains. Mais l'Eucharistie renouvelle cette union, elle renouvelle cette communion. Elle fait de ces hommes qui sont divinisés par le baptême, elle nourrit la vie de ces hommes qui sont divinisés par le baptême. Donc si vous deviez retenir une seule chose de ce que j'ai dit pendant les 5 minutes qui viennent de s'écouler, c'est que ben, le bon samaritain va à la rencontre de l'homme blessé, d'abord en vertu du fait qu'il est Dieu. C'est le Christ. Et c'est parce qu'il est Dieu que Dieu peut aller, que Dieu va à la rencontre de l'homme. Et si nous nous sommes appelés à aller à la rencontre de l'autre, si nous sommes appelés à nous rendre le prochain les uns des autres, c'est en vertu de notre enracinement en Dieu, de notre communion à Dieu. Et vous voyez l'importance de l'Eucharistie. Mais il y a un deuxième point que je voudrais aussi développer avec vous. Le Christ, il est aussi cet homme blessé. Et en réfléchissant et en méditant sur cet homme blessé, je me suis dit que il y a quelque chose aussi de difficile à accepter d'être rejoint comme un prochain par l'autre. Et c'est difficile d'aller vers l'autre et de se faire le prochain de l'autre, mais il est aussi difficile, il y a aussi une démarche qui consiste à accepter que l'autre se fasse mon prochain, que l'autre vienne à moi. Et c'est en ce sens-là que ce qu'est le Christ éclaire ce que j'ai appelé le mystère de la rencontre. Il faut être dans une situation où j'ai besoin de l'autre, une situation de dépendance. L'homme blessé, il est à demi-mort. Et donc, si on le laisse à demi-mort, il y a de fortes chances pour que le demi-mort devienne un jour un mort, complètement. Donc, il est en situation de dépendance, de besoin. Et il me semble que la figure du Christ, qui est aussi cet homme blessé, comme je le disais, elle éclaire cette dimension de besoin et d'humilité dont j'ai parlé. Qu'est-ce qui caractérise le Christ? Qu'est-ce qui définit le Christ? C'est qu'il est le Fils. Et il se définit comme Fils, il se dit qu'il se présente comme Fils, en manifestant qu'il ne fait rien de lui-même, il dépend de Dieu. C'est parce qu'il est Fils, parce qu'il est dépendant de Dieu, que le Christ est celui qui, par excellence, est l'homme dépendant qui est blessé sur le bord du chemin. Bon. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que non seulement nous avons besoin d'être unis à Dieu en sa force, en ce qu'il est, pour nous rendre le prochain de l'autre. Mais nous avons aussi besoin d'être unis à Dieu, d'être unis à Jésus-Christ, en tant qu'il est celui qui dépend de Dieu, en tant qu'il est celui qui reçoit tout de Dieu pour entrer dans le mystère de cette relation. Et j'ai commencé à le dire un petit peu tout de suite. L'Eucharistie qui nous fait communier à Dieu, qui nous fait communier à la vie de la Trinité, est le sacrement par excellence qui nous permet d'entrer de plein pied dans cette invitation à nous faire les prochains des uns des autres. L'Eucharistie, c'est le sacrement de l'amour, c'est le sacrement de la rencontre de l'homme et de Dieu. Et quand je reçois le sacrement de l'Eucharistie, je porte en moi cette rencontre de l'homme et de Dieu, et c'est parce que je porte en moi cette rencontre de l'homme et de Dieu que je peux après en vivre. Aller à la rencontre de l'autre, me faire le prochain de l'autre, qu'il soit pauvre, qu'il soit malade. Vous savez, se faire le prochain de l'autre, ce n'est pas toujours se faire uniquement le prochain de l'autre qui a des difficultés matérielles. Ce peut être aussi des difficultés d'ordre spirituel, psychologique, ou même physique. Bon. Alors, c'est parce que je porte en moi, ayant communié la rencontre de l'homme et de Dieu, que j'ai en moi le dynamisme nécessaire pour ensuite aller à la rencontre du prochain. Et si vous voulez, on pourrait relire toute la célébration de l'Eucharistie à l'aune de cette logique que je viens de déployer devant vous. Toute la célébration de l'Eucharistie, elle est rencontre-relation. Si je prends le début de la célébration de l'Eucharistie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se reconnaît pécheur devant Dieu, mais aussi devant mes frères. Et donc, vous voyez que la liturgie pénitentielle, c'est la liturgie qui nous fait nous réconcilier avec Dieu et nous réconcilier les uns avec les autres. Nous avons déjà cette relation horizontale et verticale. Ensuite, il y a la liturgie de la parole. Qu'est-ce qui se passe dans la liturgie de la parole? Dieu me parle, et Dieu me parle à travers les lectures qui sont faites, à travers l'homélie qui est explicite, qui transmet la parole de Dieu. Et une fois que j'ai bien entendu, si les micros sont bons, la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je me lève pour répondre à la parole de Dieu, et je me lève pour répondre à la parole de Dieu dans les mots que me donne l'Église en disant « je crois en Dieu ». Dieu m'a parlé et je lui réponds, je crois. Qu'est-ce que c'est que cet échange de paroles, sinon un mystère de rencontre de l'homme et de Dieu? J'écoute et je réponds. Et puis il y a la liturgie eucharistique où non seulement je donne à Dieu quelque chose qui est humain, enfin, du pain et du vin, c'est l'ordre de la création, et Dieu accepte ce pain et ce vin, et par la parole eucharistique, de consécration, par le don de l'Esprit-Saint, ben, il y a un échange. Le pain et le vin, enfin, ce n'est pas un échange, le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Et donc, ce qui relève de la création devient le corps et le sang du Christ. Et je reçois, moi, ce corps et ce sang, Dieu se donne à moi à travers ce corps que je reçois au moment de la communion, mais c'est pas simplement dans un seul sens. Je suis appelé, moi, à me donner. Je me donne à celui que je reçois. Et je me donne à celui que je reçois pour devenir celui que je reçois. Et saint Augustin a cette belle phrase, « Deviens celui que tu reçois ». Aller communier au moment de l'Eucharistie, c'est recevoir le Christ pour devenir d'autres Christ. C'est tout ce qui est célébré, c'est ce mouvement, cette relation de l'homme et de Dieu, ce don du Christ à moi et de moi au Christ, qui est le fondement de ce qu'on nous dit à la fin de chaque Eucharistie, allez maintenant, allez dans la paix du Christ, non pas allez, ça y est, vous avez fait votre devoir de bon chrétien, mais maintenant vous avez vécu quelque chose, vous avez célébré quelque chose, vous avez reçu quelqu'un, vous êtes devenu ce quelqu'un, et c'est à vous maintenant de jouer. Et c'est à vous de jouer comment? En faisant ce que ce quelqu'un fait, a fait et est. Vous voyez donc pourquoi c'était important pour moi de vous montrer comment, dans la parabole du bon samaritain, il y a la figure du Christ. Il y a la figure du Christ parce que le Christ est le modèle de ce que c'est que de se faire le prochain de l'autre et d'accepter d'être rejoint par un autre comme prochain. Et si le Christ est le modèle, alors dans l'Eucharistie, je reçois en moi celui qui est le modèle. Je voudrais faire quatre petites remarques sur cette première partie. Il y aurait peut-être beaucoup d'autres remarques que l'on pourrait faire. La première remarque, si le Christ est le modèle de la charité, du fait d'être le prochain, d'être en relation les uns avec les autres. Et si non seulement je le reçois, mais j'en vis dans l'Eucharistie. Cela veut donc dire que ce qui est demandé après, vivre l'amour du prochain, n'est pas le privilège de certains. Et notamment, ce n'est pas, comme je l'ai lu dans plusieurs remontées de groupe, ce n'est pas le privilège du prêtre que d'être le prochain de l'autre. Puisque dans la célébration de l'Eucharistie, c'est le prêtre, bien sûr, préside l'Eucharistie, mais moi, je participe activement à l'Eucharistie. Je suis intégré dans la célébration de l'Eucharistie, mais selon la place qui est la mienne. Eh bien, dans la célébration de l'Eucharistie, non seulement nous découvrons que ce n'est pas le privilège du prêtre d'être un autre Christ, même s'il est à un titre particulier, mais c'est aussi le privilège de tout chrétien. Et donc chacun, nous sommes appelés à entrer en relation avec l'autre, à nous faire le prochain de l'autre, mais selon ce que nous sommes. Deuxième remarque, lire la parabole du bon samaritain à la lumière de à la lumière du Christ et le relier à l'Eucharistie, c'est comprendre, c'est le lien avec ce que le père de Moulin-Beaufort vous a dit la dernière fois, c'est comprendre que l'exercice de la charité n'est jamais un exercice individuel. Dans la parabole, vous avez vu que le bon samaritain, même s'il a dans son sac, d'ailleurs on ne sait pas pourquoi il a dans son sac, moi, je ne sais pas si quand vous voyagez, vous prenez avec vous du vin, un peu d'huile et des pansements, pour éventuellement, si vous croisez quelqu'un qui a un bobo, le soigner. Non, moi je pense à prendre mon bréviaire, ma brosse à dents, mon pyjama. Mais non, voilà que le bon samaritain, il a pris tout cela. Et il avait tout pour soigner le... Mais il l'a quand même pris sur son dos, puis il est allé voir l'hôtelier. Et donc, il a fait cette œuvre de miséricorde. Il aurait pu la faire tout seul, mais il l'a pas fait tout seul. Il l'a fait avec un autre. Il a voulu la faire avec cet hôtelier. Il a bien sûr aidé l'hôtelier à mener à bien cette œuvre de miséricorde. Mais il l'a fait avec lui. Donc, pourquoi est-ce que je dis ça? Pour dire que l'exercice de la charité est non seulement pas le privilège du clerc, mais c'est le privilège de tout chrétien, mais ce n'est jamais le privilège d'un homme ou d'un chrétien pris seul. La miséricorde que j'exerce, même quand je suis tout seul et que je vais visiter un malade, c'est la miséricorde de celui qui fait cela parce qu'il a été uni au Christ par son baptême et en recevant le sacrement de l'Eucharistie, et donc parce qu'il a été uni à ses frères et sœurs présents. À travers chaque œuvre de miséricorde, quand je me fais le prochain de l'autre, au fond, c'est la communauté chrétienne tout entière, c'est l'Église tout entière qui, en moi, par moi, à travers moi, se rend prochain de l'autre. Et ça, non seulement nous le comprenons, mais aussi nous le vivons à travers le sacrement de l'Eucharistie. Donc c'était la deuxième remarque que je voulais faire. Troisième remarque, interpréter la parabole du bon samaritain à l'aune ou à la lumière de l'Eucharistie, c'est comprendre donc que dans la rencontre de l'autre, il y a la rencontre de deux libertés, comme dans toute l'Eucharistie. Qu'est-ce qui se passe dans l'Eucharistie? Ben, Dieu, librement, meurt pour moi, mais aussi se rend présent au moment d'être... C'est librement qu'il entre dans sa passion. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion. Voilà ce que je cherchais. Mais personne n'est obligé, même si c'est un commandement de l'Église, de se présenter à l'Eucharistie. C'est un commandement de l'Église auquel je veux bien répondre. Ce que je veux dire, c'est que toute célébration eucharistique, c'est la célébration de la rencontre de deux libertés, de Dieu qui librement vient à moi et de moi qui librement va vers Dieu. Et cette liberté, elle est exprimée aussi dans la parabole du bon samaritain. Qu'est-ce qui se passe? Ben, vous voyez, il y en a, le bon samaritain n'était pas obligé hein, de s'arrêter. Mais voilà que, contrairement au bon lévite et au prêtre, ben lui, librement, il s'est arrêté. Il a choisi de rencontrer une autre liberté. Et donc, vous voyez, même jeu de rencontre de liberté. Eh bien, je voudrais dire qu'à partir de cela, c'est ma troisième remarque, que la manière dont nous sommes comme chrétiens, dont nous allons à la rencontre de l'autre, s'indique dans la manière dont nous rencontrons l'autre en le laissant libre. Le bon samaritain, il a quand même laissé une certaine autonomie à ce blessé. Il l'a pris sur son dos, mais après, je ne sais pas si vous avez un peu réfléchi à pourquoi est-ce qu'il le laisse quelque temps seul avec l'hôtelier pour qu'il continue de guérir, oui, mais il n'est pas sans cesse sur son dos. Il l'a pris sur son dos, mais il n'est pas sur son dos tout le temps. Il se retire pour le laisser aussi déployer sa guérison. Et donc, je lis là la manière dont le bon samaritain fait œuvre de charité, mais en respectant la liberté de l'autre, l'autonomie de l'autre. Et même l'hôtelier qu'il associe à son œuvre de bienfaisance, ben, il lui dit, ben, fais tout, moi je te donne 2 deniers, et je te rembourserai par la suite. Mais c'est toi qui le fais. Donc, je dis ça pour faire écho à quelque chose que j'ai lu dans une autre remontée, c'est que se faire le prochain de l'autre, vivre la charité, entrer en relation avec l'autre, ne pouvait jamais se faire autrement que selon cette règle, ce principe de la liberté. Parce que s'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'alliance. Or, c'est ça que nous trouvons décrit dans la parabole du bon samaritain, et c'est ça que nous célébrons en chaque Eucharistie, l'alliance de Dieu et de l'homme. Et puis, dernière remarque, qui fait encore écho à une autre chose que j'ai lue dans un compte-rendu, et qui me semble aussi important, c'est, vous savez, dans la parabole du bon samaritain, l'huile, elle est là pour apaiser la douleur, mais aussi toute une dimension de gratuité. Hein. L'huile, elle est là pour redonner de la chaleur là où c'est froid. Elle est là pour l'huile, c'est le symbole aussi de la beauté qui est donnée, de la dignité qui est restaurée. Et de la même manière, nous trouvons cette logique dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, si vous voulez, j'espère que je ne vais pas me faire taper sur les doigts par mes seigneurs, mais je dirais, l'Eucharistie, ça ne sert à rien. Parce que le Christ a déjà tout fait, il est mort sur la croix, il a sauvé l'humanité. Dans un premier temps, on peut dire donc que l'Eucharistie, ça ne sert à rien. Dans quel sens? Dans le sens que c'est gratuit. C'est-à-dire, c'est par amour. Dieu n'a pas besoin de se rendre présent. Et pourtant, Dieu veut quand même se rendre présent par amour. Bon. Et donc cette dimension de gratuité qui est une des caractéristiques de l'Eucharistie, elle doit aussi se vivre dans la relation au prochain, dans la manière dont je me fais le prochain de l'autre. Vous savez, si je me rends le prochain de l'autre uniquement parce qu'il faut le faire, ou parce que ou si je vais voir l'autre qui est dans la détresse, je ne sais pas, moi, dans une détresse, et que je m'imagine que mon rôle, c'est simplement de l'aider à remplir ses papiers ou de lui faire un petit peu de ménage parce qu'il ne veut plus en faire, et puis voilà, point barre. Si je ne mets pas une... S'il n'y a pas une gratuité en plus de cela, alors il n'y a pas la marque de l'amour. Et donc, ce n'est pas vraiment la charité à laquelle je suis appelé. Ça va? C'est compréhensible ce que j'ai dit, ou bien... Je n'ai pas trop vu. Alors j'ai un deuxième point qui sera, puisque nous devons obéir au temps, nécessairement beaucoup. Donc, premier point, c'était communion de Dieu à Dieu, en Dieu, et communion des hommes entre eux. Maintenant, deuxième point, c'est la thématique du péché. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, la parabole du bon samaritain, elle intègre une thématique qui est la thématique du péché. L'homme qui est roué de coups, comme l'explique Origène, au fond, il est le symbole, le représentant de l'homme qui est blessé par le péché. Et quelqu'un posait la question en groupe, mais de quel péché s'agit-il ? Est-ce que c'est le péché originel ? Est-ce que c'est le péché que je commets ? Ben, c'est les deux, mon général. C'est les deux. Et vous remarquez que le bon samaritain, il va de Jérusalem à Jéricho. Il passe. On dit qu'il est en voyage, mais quand même, il est en voyage, mais son voyage le fait passer de Jérusalem à Jéricho. Jéricho qui est le symbole du péché. Et donc, le bon samaritain qui peut être le Christ, eh ben, il va de la ville sainte, j'allais dire, à la ville qui symbolise le péché. Et pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce qu'il va se salir un peu les mains ? Ben c'est pour que nous comprenions qu'est-ce qui se passe quand il nous appelle à nous rendre le prochain les uns des autres. Pour le dire autrement, parler du prochain, parler de comment je suis invité à me mettre en relation avec le prochain, n'est pas sans relation avec le péché. Normalement, vous devriez un peu... remuer sur vos chaises et manifester votre désaccord, parce que le péché, c'est quand même l'inverse de se mettre de la relation. Qu'est-ce que c'est le péché ? Sinon, refuser d'être en relation avec Dieu, ou perdre la relation avec Dieu, se détourner de Dieu, c'est ça le péché. Alors que la conversion, c'est hop, je me retourne vers Dieu, je me remets en relation avec Dieu. Et vous savez que le péché qui me détourne de Dieu, qui blesse ma relation à Dieu, est aussi ce qui blesse ma relation aux autres. Quand je suis égoïste, qu'est-ce que je fais sinon me retourner sur moi-même ? Je n'ai pas besoin de trop développer, vous comprenez. Donc la logique du péché, c'est de blesser la relation, voire de rompre la relation. Et bien, assez étonnamment, Saint Luc, pour nous expliquer ce qu'est la relation, il va pas mettre le péché à part. Et c'est même le péché qui est l'occasion de la relation. Parce que l'homme, il est à moitié mort sur le bord du chemin, que le bon samaritain entre en relation avec lui. Et vous vous souvenez, il faut tenir l'ambivalence que j'ai dite au début, c'est que Jésus, il est les deux. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que le péché qui nous détourne de Dieu et des hommes, il peut aussi être ce qui nous retourne vers Dieu et nous retourne vers les hommes. Et quand je dis « il peut aussi être », c'est parce que je pense que il faut que Dieu s'en mêle. Quoi. Et il s'en mêle au moment de notre baptême, et il s'en mêle en chaque Eucharistie. Car qu'est-ce que nous fait vivre l'Eucharistie, sinon le fait que je suis en relation avec Dieu, mais à quel titre ? Pas au titre... de ma sainteté. C'est pas parce que je suis un saint que je suis invité à l'Eucharistie, parce que sinon, je pense que nos églises ne seraient pas très pleines. Mais c'est parce que je suis un pécheur. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades et les pécheurs. Et vous savez, je crois que si nous commençons la célébration de l'Eucharistie, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie, comment ? En reconnaissant que nous sommes pécheurs. Ça a vraiment un sens. C'est que ce qui qualifie l'homme convoqué à la célébration eucharistique, c'est qu'il est pécheur. Et vous voyez que, donc, le péché est l'occasion pour l'homme et pour Dieu de se rencontrer. C'est ce que nous célébrons dans l'Eucharistie. Eh bien, il me semble que cette logique donc, du péché, cette prise de conscience que l'homme est pécheur, l'autre, celui dont je me fais le prochain, est pécheur, et moi-même je suis pécheur, doit marquer la logique de ce mystère de la relation que nous décrit la parabole du bon samaritain. Je vais dire trois choses, parce que je vois que l'heure avance et Mgr Beau m'a demandé d'arrêter à moins 5. Il y a deux manières de réagir par rapport au péché. Soit je me désespère de mon péché, ou j'en veux à Dieu, soit, c'est ce que je fais dans chaque Eucharistie, je me jette dans les bras de la miséricorde de Dieu. Et alors mon péché devient l'occasion de faire une expérience supplémentaire, plus grande encore, de qui est Dieu. C'est ça que nous fait célébrer chaque Eucharistie. Et donc quand je vais à la rencontre de l'autre, quand je me fais le prochain de l'autre, je me fais le prochain de l'autre en m'adossant, en m'appuyant sur cette expérience de Dieu. Cette expérience de la relation avec Dieu en tant que moi je suis pécheur. Deuxième remarque, beaucoup ont dit celui dont je me fais le prochain, je dois le reconnaître. Je dois reconnaître en lui le visage du Christ. C'est très vrai. Mais comment est-ce que je peux m'habituer à voir dans l'autre le visage du Christ, à ne pas être comme ce lévite ou ce prêtre qui passe et qui le voit et qui passe outre? Qu'est-ce qui fait que je peux, en regardant le prochain, découvrir le visage du Christ? Vous savez, c'est pour vous aider à comprendre ça, je vais vous donner un petit exemple. Les gens qu'on connaît bien, eh bien, on est capable de reconnaître leur voix. On est capable de reconnaître leur pas dans l'escalier. Vous savez, moi, j'ai été en paroisse pendant quelques années avec un vicaire que j'avais connu encore un peu par avance. La manière dont on montait l'escalier, je savais que c'était le père Henri qui montait. J'étais proche de lui, je reconnaissais. Et comment est-ce que cette reconnaissance, elle était rendue possible? Parce que nous vivions ensemble, nous travaillions ensemble, nous prions ensemble. Bon, qu'est-ce que me fait faire l'Eucharistie? Sinon, vivre, célébrer cette proximité avec le Christ. Donc il y a là quelque chose de mystique, de sacramentel, qui fait que notre proximité à Dieu nous donne ensuite de reconnaître Dieu, le Christ, qui est présent dans le visage des autres, et particulièrement des plus pauvres. D'accord, c'est clair ça? Oui. Et troisième remarque, et je vais essayer de m'arrêter là. Il paraît que c'est ma quatrième, non je crois pas, c'est la troisième. La première, c'est de dire le péché est l'occasion de la rencontre avec Dieu. Deuxièmement, la connivence, l'intimité avec Dieu, avec le Christ, me donne de le reconnaître. Troisième remarque, il y a dans la rencontre du prochain la même logique et la même force que ce qui se passe quand le Christ, le bon samaritain, va à la rencontre de l'homme roué de coups, que ce qui se passe en chaque célébration de l'Eucharistie. C'est le mystère de notre rédemption qui s'accomplit. C'est en allant à la rencontre de l'homme blessé qu'il le sauve. Et je vous rappelle qu'en chaque Eucharistie, notre salut, le fait que nous soyons sauvés, est renouvelé. Et donc si c'est cette logique qui nous habite et que nous portons quand nous allons à la rencontre du prochain, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose de mystérieux qui se passe. Quand moi je vais m'occuper d'un pauvre, mystérieusement, il y a quelque chose du salut qui est en train de s'opérer. Pour moi, pour lui, et puis pour l'Église tout entière. Et donc vous voyez que se rendre le prochain de l'autre, c'est pas facultatif, c'est pas quelque chose, c'est pas la cerise sur le gâteau. Il y a un poids, une dignité à cette invitation à nous rendre le prochain de l'autre qui est bien plus grande que la propre mesure de l'homme. Et je voudrais peut-être terminer en disant que si Dieu s'est rendu le prochain de l'homme en Jésus-Christ, et si nous sommes invités à nous rendre les prochains les uns des autres, c'est peut-être que Dieu choisit désormais de passer par chacun d'entre nous pour se faire le prochain les uns des autres. Et c'est en ce sens que l'Eucharistie qui nous unit au Christ est aussi le sacrement qui nous envoie pour aller porter aux autres celui que nous avons reçu et celui auquel nous sommes d'une certaine manière configurés. C'est là le mystère et la logique de l'amour qui se donne pour que celui qui a reçu l'amour puisse se donner à son tour et ainsi susciter l'amour. Amen.
Notre accueil ne sera pas connu.